Bonjour et bienvenue dans le JDG Winter Event 2014. Cette fois-ci, on se retrouve, c'est donc encore une fois Cladol. On se retrouve pour une interview de Pianizza, chroniqueur sur YouTube, vidéaste, comme on aime le dire, qui a son émission des hommes et des jeux. Donc, Pianizza, si tu es là, tu peux dire bonjour.
Je suis là. Bonjour à tous. Salut Cladol. Merci de m'avoir invité.
Ah, y a pas de souci. Alors, j'attends que le overlay se charge complètement, ça a l'air bon. Alors oui, vous allez avoir cette fois-ci pas un jeu en fond, mais petit extrait des vidéos des hommes et des jeux, en espérant que ma connexion tienne le coup.
On va voir mon magnifique visage.
Voilà, comme ça les gens pourront mettre une image de ta tête sur la voix. Et bien entendu, ça ne marche pas. Je m'y attendais.
Normal. Bon,
alors on va commencer les questions. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas? Pour l'instant, je vais régler ce souci.
Ok. Alors moi c'est Pianizza, donc j'anime une chronique sur YouTube qui s'appelle Des hommes et des jeux, où dedans je parle un peu de tout ce qui se rapproche de près, enfin surtout de près à l'écran. Donc je peux autant parler de jeux vidéo que d'internet, que de la télévision. Je réalise également des courts-métrages qui s'appellent des shorts, des courts-métrages plutôt conceptuels, je dirais, où je m'amuse dessus en envoyant pas mal de références à la culture vidéoludique. Voilà en gros ce qui se passe sur ma chaîne YouTube.
D'accord. Et tu es plus ciblé sur des hommes et des jeux actuellement que sur les shorts, ou tu essaies d'avoir un rythme entre les deux?
Alors j'essaye d'avoir un rythme entre les deux, mais c'est un peu dur parce que réaliser des courts-métrages, ça prend beaucoup de temps. Les gens sont surtout sur ma chaîne, ils m'ont surtout connu grâce à Des Hommes et des Jeux, donc bien évidemment je mets une priorité sur Des Hommes et des Jeux. Mais sinon j'essaye de sortir un épisode par mois. Au début j'étais sur deux épisodes par mois Des Hommes et des Jeux, là je suis passé à un épisode par mois. Pour essayer d'offrir des trucs plus nourrissants, je dirais, des épisodes plus nourrissants, voilà.
C'est un peu la moyenne que prend tout le monde, que prend la majorité des vidéastes sur YouTube. C'est vraiment un épisode par mois pour bien travailler, peaufiner la chose.
Voilà, c'est ça. C'est sûr qu'en un mois, t'as plus de temps de prendre du recul sur ton travail que faire un épisode par semaine, un épisode toutes les deux semaines, c'est un peu plus compliqué, ouais. Puis d'autant que j'ai pas de deadline si tu veux, donc je peux me permettre de sortir un peu quand je veux, mais j'essaie d'être le plus régulier possible pour satisfaire mes abonnés.
Effectivement.
Voilà.
Alors on va rentrer un peu dans tes private jokes des émissions. C'est une question je pense que tout le monde doit se poser un peu. Alors pourquoi une telle focalisation sur Jean-Pierre Coff, est-ce ton dieu spirituel?
Alors moi, il faut savoir que je suis un grand fan des YouTube Poop et des MLG, donc je sais pas si ça te dit quelque chose.
Moi je sais ce que c'est les YouTube Poop, mais peut-être explique-le pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat.
En gros, c'est des parodies de montage, on va dire, ça existe principalement sur YouTube, mais c'est des gens qui vont reprendre des vidéos, les déformer à leur façon pour en faire des trucs un peu what the fuck.
Pour recréer des phrases, justement, d'une personne.
Ouais, voilà. Voilà, ils vont reprendre les répliques de Jean-Pierre Coff pour les recréer à leur sauce. Et moi, les YouTube poops de Jean-Pierre Coff, c'est juste un truc qui me flingue de rire. Donc voilà, j'en vois beaucoup de références à Jean-Pierre Coff, c'est aussi un personnage qui me fait beaucoup rire. Et voilà. Bon, c'est une private joke, c'est vrai. Donc il y aura peut-être des gens qui vont pas comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il fout Jean-Pierre Coff à tout va sur sa chaîne?
Justement, c'est peut-être ton dieu spirituel, il t'inspire de grandes choses.
Ah, il m'inspire énormément, Jean-Pierre Coff. Avant de commencer un épisode, je vais toujours me mater une YouTube poop de Jean-Pierre Coff, et j'en mate régulièrement, il faut le savoir.
Déjà, Geno Game a l'air de connaître les MLG, il a l'air d'être fan.
Ah, j'adore, les MLG, c'est assez fantastique. Les MLG, ça ressemble un peu au YouTube poop, sauf que ça va être beaucoup plus speed, beaucoup plus épileptique dans le délire, ça va être plus violent, on va dire.
Ouais. Mm. C'est un peu une inspiration qu'a Antoine Daniel aussi pour ses montages par moment.
C'est vrai qu'Antoine Daniel, Antoine Daniel, il est de plus en plus dans ce délire. Je pense qu'il s'inspire en effet des MLG. ça s'est beaucoup vu dans son dernier épisode notamment.
Actuellement, ouais. En plus, à l'écran, on vient d'en voir un quand le concierge propose des putes dans le dernier.
Voilà. Par exemple, il y a celui-là. Ouais. C'est toujours accompagné d'une musique dubstep en général, c'est assez violent, ouais, dans l'idée.
D'accord. Alors maintenant, on va un peu d'abord se focaliser sur ta personne avant de parler plus en détail de ta chaîne. Du coup, quelles ont été tes études ? Est-ce qu'il y a des liens avec la création de la vidéo ou t'as fait tout ça en autodidacte, justement ?
Alors j'ai tout fait en autodidacte, j'ai commencé, ça fait un petit moment que je fais des vidéos, en réalité j'ai commencé sur Dailymotion, je faisais des interviews avec Jumpman, il est souvent présent dans mes vidéos en tant qu'acteur. J'ai commencé là, voilà, on essayait de s'intéresser un peu à la culture alternative au sens large. On a réalisé par exemple un documentaire qui s'appelait Under Geek, où dedans on pouvait retrouver donc le joueur du grenier, un peu toute la scène vidéoludique, enfin des chroniqueurs vidéoludiques. Mm-hmm. Après j'ai fait un passage sur jeuxvideo.com donc avec Jumpman où j'ai réalisé New Gamers Factory. Donc on faisait jouer des personnes âgées, enfin on essayait d'initier des personnes âgées aux jeux vidéo. On n'est pas resté longtemps parce qu'on a eu un accueil assez froid de la communauté. On s'est fait troller comme il faut. On était en essai en fait.
Pour certains chroniqueurs.
Ouais, ils l'ont fait pour.
Il y avait une émission justement où je crois qu'ils faisaient jouer des gens sur un grand 8, ce genre de choses. Je me rappelle plus le nom de l'émission, oui, mais pareil.
Je sais plus comment ça s'appelait. Oui, mais exact.
Mais on voit ce que
les
c'est.
Les gamers de l'extrême, je crois.
Oui, ça doit être ça, les gamers de l'extrême.
Un truc comme ça, ouais. Donc voilà, donc petit passage, on a fait 3 épisodes et puis ils nous ont pas gardé du coup. Donc après, j'ai pas su quoi faire pendant un petit moment et c'est là où je me suis venu me lancer en indépendant, tout seul, sur YouTube. J'ai lancé mes des jeux sur ma chaîne. Voilà, en gros mon parcours, mais niveau études, non, je suis autodidacte, j'ai pas de formation ou de réelle formation, voilà.
D'accord, mais justement tes études en particulier, t'étais parti sur quoi ?
Alors j'étais parti sur une licence art du spectacle, mais en fait ça m'a pas vraiment servi à grand chose puisque ça restait assez théorique dans l'idée et vraiment j'ai fait mes armes tout seul niveau études non je peux pas dire que je sois formé
pour les vidéos quoi.
Voilà ouais.
Alors de ce que je vois on a une petite question de Rémi tout court qui nous dit Pianisa est-ce que tu vas enfin t'acheter un micro ou on se cotise.
Rémi tout court, oui, je l'avais trollé dans ma FAQ, Rémi tout court, il me stalk maintenant, il me stalk un peu partout.
Il t'a suivi, il est là. Court,
mais j'ai acheté un nouveau micro, là je parle actuellement avec un nouveau micro, donc voilà, j'avais un Zoom H1 avant et là maintenant je me retrouve avec un Rode qui est plutôt pas mal.
Mais le Zoom, c'est quand même pas mal pour démarrer, hein. Y a pas à dire.
Ah, le Zoom H1, il est bien. Ouais, franchement, il est bien. Je m'en sers toujours. Mais c'est mieux un Rode. Je sais pas si je le prononce bien.
Si, c'est un Rode. C'est...
Un Rode, ouais. C'est mieux pour parler, pour capturer la voix. Alors que le Zoom H1, ça va plus te servir pour capturer une ambiance. C'est pas trop fait pour la voix off ou ce genre de choses.
D'accord. Voilà. Donc oui, Kama qui nous demandait si on lisait les commentaires. Oui, on les lit. Et du coup, il a une question. Que penses-tu de la Web Media Convention ?
Alors la Web Media Convention, j'y étais ce week-end. C'était vraiment cool parce que j'ai pu rencontrer plein de vidéastes, plein de youtubeurs. J'ai pu rencontrer aussi. Il y avait beaucoup plus de vidéastes que d'internautes. En fait, on était vraiment. On a pu discuter donc ensemble. Non, c'était super. J'ai bien aimé. Il y avait des conférences aussi, une conférence sur le tournage, donc qui était animée par Nota Bene. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a eu une conférence aussi sur le montage. C'était vraiment très bien pour les personnes qui voulaient se lancer dans la vidéo, parce qu'ils ont donné pas mal de conseils intéressants. Ouais. Ouais, des conseils et astuces. Moi, j'ai bien aimé. C'était bien. D'accord. Bien marré, en tout cas. Il y avait aussi Jackie qui a trollé tout le monde, et c'était marrant.
Un grand ami à toi.
Ouais, ouais. C'était drôle.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses que pourrait encore offrir l'avenir de cette convention? Est-ce qu'elle sera vraiment, tu penses qu'elle va continuer à vivre et à grandir?
Alors ça, je sais pas du tout. C'est le problème là, c'est que sur cette première web media convention, c'est qu'il y avait, je m'attendais qu'il y ait plus de viewers en fait, alors qu'on s'est vraiment retrouvé juste en vidéaste. Mais je trouvais que c'était un peu dommage. Mais est-ce qu'elle a de l'avenir? Oui, peut-être si ils refont ça l'année prochaine et que les vidéastes continuent à venir, ça a sans doute de l'avenir. En tout cas, ce qui est vraiment génial, c'est que on peut se rencontrer entre vidéastes et discuter de nos programmes, de ce qu'on fait. Donc oui, je pense ça a éventuellement de l'avenir. À voir.
Il faudrait vraiment une grande implication justement des vidéastes et des viewers pour donner vie à la convention.
Bah là, disons que c'était une première, donc forcément les premières fois, les premières conventions, le début, c'est un peu dur à faire démarrer le truc, quoi. Il faut déjà arriver à ramener du monde, c'est pas simple, quoi. C'est sûr que.
Ouais. Alors ne vous inquiétez pas dans le chat, si on ne prend pas tout de suite vos questions, c'est parce qu'on va essayer d'abord de séparer aussi les questions que j'ai préparées et ensuite vos questions. Donc préparez-les bien comme il faut dans un coin, et après vous pourrez les reposer quand je vous ferai signe. Du coup, effectivement, les modos, si vous pouviez utiliser les commandes statut et game pour changer la chaîne, parce que j'ai oublié de le faire, merci. Alors, donc oui, tu as parlé du coup de ton passif des premières vidéos, ton passage à JVC avec New Games Factory.
Ouais.
D'ailleurs, à propos des avis, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Qu'est-ce qu'ils pensaient justement de New Gamers Factory?
Alors, on a eu beaucoup.
Si on vire à peu près les trolls qui disaient c'est nul, c'est moche, quoi, tu vois. Ouais, les vrais constructifs que t'as eu qui te sont bien, qui t'ont permis justement peut-être d'avancer un peu plus.
Dans les avis constructifs, c'était surtout un problème de rythme. Peut-être de, disons que c'était un peu mou. C'est vrai que de voir une personne qui ne maîtrise absolument pas les jeux vidéo s'essayer un jeu comme Crash Bandicoot, ben, tu vas la voir tomber dans le précipice toutes les 5 minutes. C'est vrai qu'il y a un côté, je pouvais comprendre
frustration peut-être par les joueurs aussi.
Ouais, voilà, les gens pouvaient se faire chier en regardant ça. Ils nous disaient souvent, voilà, moi je vois pas l'intérêt de voir une personne âgée jouer à un jeu vidéo, parce que tu vas juste la voir fail,
galérer,
donc voilà, c'était surtout l'avis qui est souvent revenu. Et ça, d'ailleurs, ça a été c'est très dur en fait de se faire troller massivement par beaucoup de monde, mais c'est aussi une très bonne école d'un autre côté, parce que ça m'a permis de voir où était le défaut dans la réalisation, dans le montage, et ça a permis de m'améliorer au final. Donc, mais le plus gros, la critique qui revenait souvent, voilà, c'était que c'était trop mou, que ça manquait de pêche, quoi. Il y avait pas la niaque que les gens voulaient.
Ça manquait de dynamique.
Ça manquait de dynamisme. Ouais. C'est ce qui est très dur dans la vidéo, c'est d'arriver à faire quelque chose de dynamique en fait, qui va tenir le viewers, qui
ne doit pas tenter d'avancer dans la vidéo, quoi. Aussi.
Voilà, ouais. Sur Internet, quoi. Sur Internet, tu te fais chier, tu fais hop, je me barre, quoi. Je vais voir autre chose. C'est comme on est une génération de zappeurs, quoi. Donc il faut vraiment arriver à tenir le spectateur devant son écran. Et c'est ce que j'ai appris grâce à cette expérience sur jeuxvideo.com. Voilà.
Donc, même si ça a été négatif dans un sens, ça t'a permis de progresser dans un autre.
Ah ouais. Ah bah de toute façon, il faut, quand tu te lances sur Internet, il faut s'attendre à se faire. C'est le jeu, quoi. Je veux
dire. Faire descendre. Ouais.
Ouais. Si tu fais un truc mauvais, c'est sûr que tu as le risque de te faire descendre. Surtout sur jeuxvideo.com.
C'est une grosse communauté déjà. Oui.
Grosse communauté. Donc un public qui va évidemment demander. il va demander un minimum de qualité dans les programmes, parce que forcément, tu arrives sur jeuxvideo.com, directement, tu te retrouves face à une audience massive, en fait. Tu vas faire 50 000, 60 000 vues sur ta vidéo. Donc forcément, tu as un public qui est assez exigeant en face, qui va demander quelque chose de bon, quoi. Voilà.
D'accord. Alors oui, du coup, tu as parlé plusieurs fois de Jumpman, qui est depuis, on l'a vu depuis cette chronique avec toi, mais même si tu
l'as Jumpman qui présentait, ouais, c'était Jumpman, oui, voilà, qui présentait New Gamer Strategy et moi qui réalisais derrière. Voilà.
D'accord. Donc vous connaissiez aussi pour ma première vidéo, et du coup, depuis quand vous vous connaissez en fait?
Ben depuis un petit moment, depuis, en fait, c'est mon voisin Jumpman, on habite à 50 mètres l'un de l'autre. Donc,
D'accord. Ça facilite déjà.
Ouais, ça facilite, ouais. Mais on se connaît depuis un petit moment, ouais, depuis peut-être 10 ans, un truc comme ça. C'est un pote, en fait, quoi, Jumpman, à la base.
Ouais. Copain classique, y a aucun passif spécial.
Avant, je le détestais.
Ça commence à lancer les dossiers, là.
Non, pas du tout. Non, les Jumpman, c'est toujours bien entendu. D'ailleurs, des Jumpman qui me donne souvent des idées sur ce que je fais, là, sur des hommes et des jeux, il va souvent me donner des idées très cool. Donc, voilà, je fais un bisou à Jumpman, si par hasard il est par là. Mais je ne crois pas.
Ah, c'est un peu, c'est toujours mieux, en fait, de travailler en équipe, justement, comme tu le dis, au niveau des idées, déjà. Ça,
ah ouais.
Ça amène,
ouais,
beaucoup d'interactions.
Ouais, ça va. Bah, disons que c'est bien aussi d'avoir des retours autour de toi, des gens qui vont te dire aussi, voilà, ça je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que quand tu fais un travail seul, t'as besoin d'avoir quand même des retours qui vont te dire, qui vont pouvoir te guider un peu, te dire ce qui est bien, ce qui est moins.
Justement, comme t'es plongé directement dans ta création, tu penses pas vraiment à ce,
ouais,
qui peut
ça,
ne,
ouais,
pas marcher, tu te focalises plus sur ce que t'as envie de voir réaliser. C'est forcément en défaut.
La tête dans le guidon, quoi. Quand tu crées un truc, surtout que quand t'as un délai, en fait, c'est pour ça aussi que je me suis mis à faire un épisode par mois, parce qu'avant je faisais un épisode toutes les deux semaines. Et c'est vrai que quand t'as un délai, quand t'es dans le guidon et tu vas pas avoir le temps de prendre du recul sur ton, tu vois, de te prendre genre 3-4 jours où tu vas faire un break et puis de revenir 3-4 jours après sur la vidéo, si t'auras le recul, t'as besoin, si tu veux, de, faut pas avoir tout le temps la tête dans le guidon, faut toujours se donner une pause et revenir plus tard sur la chose pour faire des modifications, alors que si t'as la tête dans le guidon, bah tu peux faire de la merde sans t'en rendre compte, quoi.
Toujours, oui, jamais se dire, ah, c'est bon, j'ai fini le mixage, je viens de le sortir, hop, je mets sur YouTube et c'est réglé, quoi.
Ouais,
c'est
voilà.
La chose à éviter.
C'est vrai que quand tu mets ta vidéo en ligne, t'es vraiment content. Tu te dis, ouais, putain, j'ai terminé ma vidéo, allez hop, tu fonces sur YouTube, bim, je la mets. Alors que ça, c'est un peu une erreur. Je m'en suis rendu compte petit à petit. Il faut pas se précipiter quand tu crées quelque chose. Faut toujours prendre ton temps le plus possible. Et c'est vrai que sur Internet, t'es vite tenté de faire le truc, hop, je le fais vite. J'essaie de le faire vite et aussi bien que je peux, mais vaut mieux éviter de
se presser,
procéder de cette manière. Ouais,
toujours, ouais, laisser reposer.
Faut laisser reposer, ouais, c'est ça.
Alors maintenant, on va rentrer quand même un peu plus dans la chronique des hommes et des jeux. Alors du coup, comment t'es venu l'idée de la chaîne, de l'émission?
Bah, alors au début, j'avais pas d'idée précise. Je savais juste que j'avais des choses à dire sur l'écran, parce que c'est quelque chose qui me fascine un peu, l'écran. Et disons que j'ai pas vraiment de ligne éditoriale dans des hommes et des jeux. Par exemple, tu vas regarder Usul, tu vas regarder 35 Usul, tu vas regarder Cross, tu verras qu'il y aura une ligne éditoriale un peu. Alors moi,
le jeu vidéo, tout simplement.
Ouais, voilà. Alors que moi, je vais aborder des sujets qui n'ont rien à voir à chaque fois. Par exemple, je vais parler de street art et l'épisode suivant, je vais parler du porno, tu vois. Donc, disons que l'idée, elle m'est venue comme ça, quoi. J'avais envie de parler de choses, donc je me permets de parler un peu de ce que je veux sans m'imposer de ligne éditoriale, voilà. Parce que j'aime pas être cadré, je me sens pas libre quand je sais que j'ai un truc. Si par exemple je devrais parler que de jeux vidéo tout le temps, Je pense que ça me ferait chier au bout d'un moment.
Oui. Bah, c'est ce qui est arrivé justement à Usul, à force de travailler sur les 35 Usul par semaine en plus, lui, obligatoirement.
Oui, il avait besoin de passer à autre chose, je pense, ouais.
Oui, après 2 ans comme ça, effectivement, lui, il avait bien besoin de se reposer, de penser à autre chose. Il disait clairement qu'il voulait plus entendre parler de jeux vidéo pendant un petit moment. Depuis, c'est revenu, on rassure les fans de Usul. Mais voilà.
Il a fait quelques vidéos, je crois.
Bah, les usurpations, et il a aidé Crane sur Looking for Games sur JVC de temps en temps.
Ouais, exact.
Mais maintenant, sa principale activité, c'est. Sa principale activité maintenant, c'est nos chers contemporains, si je ne me trompe pas.
Mes chers contemporains, ouais, c'est ça.
Voilà.
Excellente chronique d'ailleurs. Vraiment excellent. Je suis un fan d'Usul, donc.
Je sais pas trop. Tu es conquis.
Ouais, je suis conquis, ouais. Bah, d'ailleurs, il fait partie des vidéastes qui m'ont poussé à. Qui m'ont donné envie de me lancer.
Parce que, ouais, justement, on repère quand même dans tes vidéos une. C'est pas du copier-coller, t'as carrément réussi à trouver ton propre style, mais on sent qu'il y a justement cette envie d'expliquer quelque chose aux gens, quoi.
C'est ça, c'est sûr qu'il y a des influences usuliennes, ça, c'est clair.
Mais justement, t'as pas fait le copier-coller, t'as pas fait 36-15 Pianizza.
Non, bah non, ça aurait fait un peu genre le mec, fanboy d'Usul, je vais faire tout comme lui, je vais m'habiller comme lui, avec la pipe et tout.
Non, toi, t'as préféré la plume.
Ouais, j'ai préféré la plume, voilà. Bon, ça fait un peu plus prétentieux, la plume, peut-être. Ça fait un peu genre, ouais, moi, je suis écrivain. Enfin, j'espère que ça donne
pas... Je suis un homme de lettres.
Voilà, je suis un homme de lettres, voyez-vous.
Je sais de quoi je parle. Ouais.
Du coup, Usul avait la pipe. Moi, je me suis dit, je vais prendre un petit objet comme ça,
identifie.
Comment dire, qui identifie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quand, ouais. Je pense qu'on
peut voir même justement qu'il est aussi sur le logo des Hommes et des Jeux. Tu l'as gardé.
Ouais, je l'ai gardé. Ouais. Quand tu crées un personnage. C'est bien d'avoir un petit quelque chose qui pourrait t'identifier. On peut le voir, il y a, par exemple, t'as le fossoyeur de film avec sa pelle, t'as Antoine Daniel avec Richard et son ventilateur, t'as Usul avec sa pipe, et puis moi, voilà, je suis avec ma plume.
Déjà avec sa chemise.
Voilà, je le dis déjà avec sa chemise.
Tu as aussi des lunettes, des fois, de soleil, qui sont assez swag.
Ouais, alors les lunettes de soleil, je les ai juste, je les porte seulement dans l'épisode 11. J'ai pas de lunettes de soleil dans les autres épisodes.
Ouais, j'ai peut-être dû les voir peut-être dans les cours alors. Les shorts.
Ah oui, peut-être dans les cours. Ouais. Non, dans les cours, non. Non plus, non, je crois pas. Non.
Ça va être que pour le bad buzz alors que tu les as. Bon, bah.
Ouais, c'est dans les bad buzz. J'ai mis les lunettes parce que je crois que ça donnait un effet spectateur d'avoir les lunettes comme ça.
Et tu aurais osé dire bof.
De comment?
Un air bof.
Un air bof?
De bof, ouais.
Ah, ouais, peut-être, c'est ça, ouais. C'est comme ça que je le voyais.
Ah, c'est vrai, le bof, tu l'as plutôt fait pour l'épisode sur le foot.
Aussi, je l'ai fait aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Je suis assez fort pour faire le bof, je pense que c'est peut-être dans mes gènes, je sais pas. J'ai peut-être un petit côté bof. On a tous un côté bof qu'on ignore, je pense.
Ouais, ça doit être ça. On est tous bof au fond de nous, il faut l'accepter. Ouais. Et lutter contre.
C'est vrai qu'on aime bien tous, des fois, se faire des soirées beauf. Tu vois, quand tu fais une soirée gaming avec des potes, il y a toujours un petit côté beauf. Ça va boire des bières, ça va tailler. Ouais.
Est-ce que toi, pendant tes soirées beauf, tu regardes du Morandini, par exemple?
Ah oui, ah bah toujours.
Toujours.
Ouais, toujours.
Grande source d'inspiration, moi aussi, Morandini.
Jean-Pierre Coff, Morandini. Voilà.
S'il nous regarde, on vous remercie.
Morandini, c'est un sacré personnage aussi. Hein.
Effectivement.
Je pourrais en parler des heures de Morandini.
Ah oui, on pourrait tous en parler pendant des heures, le peu qu'on envoie de lui, chaque fois. L'extrait était pas mal aussi, celui que tu avais choisi, avec quand il parlait de François-Xavier, si je me trompe pas. Quand il parlait de l'escroquerie de son père ou quoi.
Bah, c'est terrible ça.
Ouais. Genre de personnage.
Bah, Morandini, c'est je sais pas, j'avais mis cet extrait qui était je trouvais un peu vieux. En fait, c'est un extrait que je trouvais violent dans le fait que vraiment, Fix était quelqu'un qui s'était fait qui s'était fait pourrir par les médias, et je trouvais que c'était un extrait qui représentait bien la chose. Enfin, voilà.
Ouais, l'aspect Morandini, parce que inviter quelqu'un et lui dit après lui parler de toute autre chose.
Oui, c'est vraiment le truc, c'est vraiment en fait l'idée, c'est on va inviter quelqu'un et puis pour faire de l'audience, on va le
pourrir en live.
Ouais, on va lui poser des questions gênantes, on va le mettre mal à l'aise, on va le pousser un peu, on va le pousser au suicide quoi.
Alors, est-ce que tu couches avec Jumpman? C'est pour savoir.
seulement le 29 février. Les autres jours, non, j'évite. Mais je lui fais des bisous des fois.
Ah,
mais
un
sur
petit
la
bébé.
Joue. Sur la joue. Hein.
Mais seulement quand il n'est pas rasé, c'est ça.
Ouais, ce qui est assez rare. D'ailleurs, là, on voit des images en ce moment, on peut le voir qu'il est très barbu.
Oui, ce magnifique épisode sur l'indépendance du jeu vidéo. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'intro d'ailleurs.
C'est bien marré. Ouais. Je suis bien marré à faire cet épisode, c'était bien. C'est bien marré.
Un trop petit Hotline Miami. Ouais. Ce jeu de l'amour.
Ah, ce jeu de l'amour, oui. Ouais.
L'amour et de l'amour. Inspiré un short aussi, justement.
Ouais.
Que je conseille d'ailleurs.
J'adore Hotline Miami, je suis un grand fan. J'attends impatiemment le deuxième.
Wrong Number.
Hotline Miami 2 qui devrait sortir bientôt, normalement.
Oui, ils nous le disent, ouais. Qu'il devrait sortir bientôt, mais on l'attend encore.
Bon. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon, on sait pas trop quand c'est ce que ça va arriver, en fait. C'est assez obscur.
Mais ça arrivera.
Ça arrivera un jour.
On va pouvoir découper des gens avec ses amis, enfin.
Ah, ça va être merveilleux, ça.
Les merveilleuses soirées en perspective.
C'est clair.
Alors, justement, en continuant sur des hommes et des jeux, comment tu choisis justement tes sujets? Est-ce que c'est par rapport à une envie du moment, ou t'as envie de coller l'actualité, ou c'est vraiment, ça devient comme ça, quoi, tu te dis j'ai envie de parler de ça?
C'est vraiment une envie du moment, ouais, c'est ça. C'est, par exemple, je suis en train de réaliser l'épisode 11, et pendant la réalisation de l'épisode 11, je vais avoir une idée qui va me dire, je dis ah ouais, tiens, je devrais faire ça pour l'épisode 12. C'est aussi, souvent des sujets, par exemple, de l'indépendance du jeu vidéo. C'était vraiment un épisode que je voulais faire. Dès que j'ai commencé la chaîne, je me suis dit il faudra vraiment que je fasse un épisode sur le parcours du jeu indépendant. Mais en général, c'est je fais vraiment à l'envie, quoi. Et par exemple, je sens qu'il faut que je fasse maintenant cet épisode, je vais le faire, quoi. Par exemple, l'épisode du jeu indépendant, je voulais le faire depuis le début, mais j'ai attendu un peu d'avoir un peu plus d'expérience dans le montage pour essayer de faire quelque chose d'assez d'assez nourrissant,
complet,
tant sur le fond que sur la forme.
Mmh. Ouais, tu voulais vraiment pas le rater en fait cet épisode. Tu t'es bien dit.
Ouais, j'adore le monde du jeu indépendant. Donc ouais, je voulais faire quelque chose de bien, de long et enfin
bien, ouais. Construit, bien complet, ouais. Bien argumenté.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais.
Justement, comme on est dans le côté indépendant avec aussi le financement participatif, du coup tu as choisi Tipeee, si je me trompe pas, pour ton financement participatif.
Ouais.
Alors pourquoi ce choix, et est-ce que ça nourrit du coup une vraie volonté d'en vivre, au moins de t'aider pour tes vidéos?
Bah, pour l'instant, c'est sur Tipeee, je récolte pas grand chose, mais c'était ça à la base, vu que Tipeee c'est une bonne alternative pour enfin, c'est une bonne alternative, ça se discute après, mais pour qui voudrait commencer à faire des vidéos et qui voudrait en vivre, c'est sûr que tu vas pas en vivre avec le nombre de vues que tu fais au début, quoi. Au début, tu vas faire 1000 vues, 2000 vues, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir en vivre, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers Tipeee, en espérant que des gens me soutiennent un peu, pour pouvoir m'acheter du matos, un peu de tout ça, quoi.
Justement, mais, le road a été payé par des Tipeee.
Voilà, par exemple.
Vous voyez, ça sert, le Tipeee.
Ouais, ça sert. Et puis même si tu veux, par exemple, si tu veux faire des tournages où ça implique plus de choses, c'est vrai que t'as besoin d'avoir des financements, quoi, que tu n'as pas forcément. C'était ça vraiment le but du Tipeee, quoi, pour sans se servir vraiment de tout ce que je récoltais, je l'injectais dans la chaîne, quoi, et puis dans rien d'autre.
D'accord, ouais. Parce que par exemple, on peut citer que sur Tipeee, je crois, mais je suis pas sûr que l'un des qui récolte le plus, c'est Benzaï.
C'est Usul, je crois.
Usul?
Je crois qu'Usul, il est à plus de 4000, il me semble.
Ça va. Mais comme on voit, du coup, entre Usul et Benzaï, c'est pas des petits débutants, quoi. Ils ont quand même eu le temps d'installer une grande fanbase et,
Ouais, bien sûr.
Voilà. Faut pas se dire, ah, c'est bon, ils sont sur Tipeee parce qu'ils, du coup, ils récoltent 4000 euros. C'est pas trop comme ça qu'il faut le voir, quoi. C'est plutôt se dire, ils ont une notoriété, donc ils peuvent se permettre d'atteindre les 4000 euros.
C'est vrai. C'est ce que je me dis souvent. Je me dis, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de lancer le Tipeee, mais en même temps, si tu peux déjà récolter 20-30 euros pour un épisode, c'est déjà bien, quoi.
Puis c'est pas pénalisant non plus un Tipeee, quoi. Tu peux très bien le créer, puis petit à petit, ça grimpe, quoi. Voilà.
Ouais, ça, petit à petit, ça grimpera. Mais c'est vrai que quand on est nouveau vidéaste, on a tendance à se dire, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, en tout cas, je me suis dit, ouais, je vais lancer mon Tipeee, je pense que ça a marché et tout, mais en fait, faut pas voir ça comme ça, parce que vraiment, tu regardes, ça va surtout être les gros youtubeurs pour qui ça a marché. Par exemple, j'ai vu dernièrement Ypensé, qui avait lancé son Tipeee, 150 000 abonnés, le lendemain, il avait 1500 euros, quoi.
Ouais, c'est déjà pas mal, quoi, pour le mois.
Ah bah c'est une très bonne somme, quoi. Mais c'est un peu le problème de Tipeee, c'est que finalement c'est comme sur YouTube, finalement c'est que ça va surtout servir aux gros youtubeurs, et souvent tu regardes les petits youtubeurs, ben ils récoltent pas grand chose.
Nous avons Rémi Tocourt qui signale aussi qu'il te donne 1 euro par épisode, t'as de quoi bombarder.
Ah. Merci Rémi Tocourt.
Et Yuan from Outer Space qui nous signale que en plus Usul, en plus de la fanbase, il a une base de militants politiques, ce qui est vrai.
Ouais. Alors Yuan from Outer Space, je profite d'en parler, qui tient une très bonne chaîne. Oui. Que j'ai rencontré aussi à la Web Media Convention où il parle de Nanar. Donc allez faire un tour, c'est cool.
Oui, plus, de toute façon, vous pourrez le retrouver, demain soir, il sera là pour une discussion avec Mea, Ginger Force et Docteur Ciné autour du cinéma et du jeu vidéo. Voilà. Déjà, vous savez ce qui vous attend demain soir sur le GG Winter Event.
Et Johan qui fait partie des petites chaînes qui mériteraient, 10 fois plus, quoi, et qui ont toujours du mal à sortir, alors qu'ils font du bon contenu.
Ah, mais pour répondre à la question,
High five, bro. mais oui, Usul, du coup, vu qu'il est penché vers quelque chose d'assez politique, forcément, ça, je pense, ça va plus pousser les gens à
réfléchir
encore plus. Ouais. Mais oui, donc il a forcément une base de militants politiques derrière lui qui l'aide beaucoup.
C'est toujours ça quand on parle un peu politique. On sait que ça part assez vite.
Ouais. C'est clair.
Oui, donc voilà, pour le Tipeee. Bon, t'en as parlé un peu, mais on le reprécise encore une fois, tu fais aussi des courts-métrages qui sont au nombre de 2 actuellement?
Ouais, il y en a que 2. J'ai commencé ça, le premier je l'ai fait en octobre. Voilà.
D'accord.
C'est court-métrage que je vais sûrement, les prochains, je vais sûrement faire ça irrégulièrement parce que j'ai avoir moins de temps en 2015.
Mais travail, tu supposes?
Alors pas du tout, je vais être sur, enfin oui, il y a un travail, mais ça reste un travail qui va rester dans ma passion, parce que je vais aller sur With Gamers faire une émission pour eux là-bas.
D'accord. Tu peux peut-être les présenter rapidement pour ceux qui les connaissent pas.
Alors With Gamers, c'est une chaîne qui fait des classements de youtubeurs qui va aussi prendre des vidéos youtubeurs et les diffuser sur leur chaîne, ce qu'ils ont fait avec moi par exemple. J'ai fait mon épisode 5 et où j'ai fait un top 10 de jeux polémiques, et mon épisode 8 où je parle de Minecraft. Ils ont pris mes vidéos, ils les ont mis sur leur chaîne, ce qui est excellent. C'est super parce que ça te fait une grosse audience du coup, et ça ramène pas mal de monde sur ta chaîne.
Ouais, c'est l'effet communautaire, ça qui est cool.
Ouais, c'est que c'est vachement communautaire. Et c'est Wizdeo, en fait. Wizdeo qui est un network. Donc, moi, c'est mon network, Wizdeo. C'est la chaîne de Wizdeo, en fait, WizGamers. Voilà.
D'accord. Et ils ont plusieurs autres, je suppose, chaînes en fonction d'autres choses que du jeu, vu leur nom.
Sur WizGamers, tu veux dire?
Bah Wizdeo, vu que tu me dis qu'après il y a Wizgamer, je suppose qu'ils ont peut-être d'autres chaînes Wiz quelque chose.
Non, ils ont, c'est juste, ils ont que Wizgamer, il me semble.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Peut-être que dans leur optique future.
Ouais. Donc ce ils sont venus vers moi et ils m'ont proposé de faire une émission sur leur chaîne, donc c'est cool. Ça a commencé début 2015.
D'accord. Du même style que des hommes et des jeux ou tout autre chose?
Tout autre chose que je tiens top secret.
D'accord.
Mais ça sera de la création libre. Je pourrais faire un peu ce que je veux, donc ça va être super quoi. C'est, ils vont me donner quartier libre, donc c'est cool. Mais je vais continuer des hommes et des jeux. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y aura sûrement moins de shorts, parce que je vais devoir faire donc un épisode de la chronique que je vais lancer en 2015 sur WizGamers, et je vais continuer des hommes et des jeux sur ma chaîne, un épisode par mois. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être un peu chaud de continuer les shorts. Je pense que j'en sortirai un tous les 2 ou 3 mois. Je verrai comment ça se passe quoi.
Ouais. C'est vraiment plus pour se détendre et sur une envie du moment quoi, voilà.
Okay. Bah, disons que sur les shorts je me lâche vraiment, je fais vraiment ce que je veux, donc je fais des trucs un peu space je pense, mais c'est vraiment pour me faire plaisir surtout que je fais ça.
Bon, ce sera pas comme par exemple Antoine Daniel qui lui a vraiment une volonté de se diriger vers des petits courts métrages réalisés humoristiques et tout en gardant la formule de base. Les shorts tu les fais pour te détendre à côté des hommes et des jeux.
Voilà, c'est ça, ouais, c'était ça l'idée. Après, si ça marche, tant mieux, mais c'est vraiment... J'ai plus beaucoup d'idées qui me viennent pour faire des courts-métrages, donc je me dis autant les faire, parce que c'est beaucoup plus fun de réaliser un court-métrage que de faire une chronique, parce que voilà, le court-métrage, ça va être du tournage pur, alors que sur la chronique, tu vas passer le plus clair de ton temps sur le montage, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des courts-métrages aussi, parce que tu vas être avec tes potes, tu vas te marrer quoi.
Justement, t'as introduit un peu plus dans Des Hommes et des Jeux en intro. Depuis quelques épisodes, tu commences à introduire des petits courts-métrages dans les débuts d'épisodes.
Ouais. J'essaye de mettre plus de fiction parce que j'aime bien en mettre. Mais ça reste, dans Des Hommes et des Jeux, ça reste assez assez court en général, assez succinct.
Ouais. Oui. Alors on en a un peu parlé, mais au niveau de tes inspirations du côté vidéaste, réflexion et jeux vidéo.
Mes inspirations côté vidéaste.
Oui. On a déjà parlé d'Usul justement.
Ouais. Donc je crois qu'on les a déjà à peu près tous cités. Dans les plus connus, c'est Joueurs du Grenier, Usul, Karim Debbache, aussi Antoine Daniel. Voilà. Après, dans les moins connus, ceux qui m'inspirent dans les moins connus, il y en a beaucoup. Il y a tellement de youtubeurs aujourd'hui. On va dire que à la base, c'est ceux-là qui m'ont poussé. Après, il y a niveau montage, ceux qui m'inspirent beaucoup, c'est ceux qui font des MLG, donc, parce que des MLG, j'en bouffe par paquet de 12.
Oui.
techniquement, ça serait. Je me dirige plus vers. Disons que j'ai découvert les MLG il y a pas longtemps, et je me dirige plus vers un style qui irait vers le MLG en fait.
Donc les gens savent à quoi s'attendre maintenant, de ta part.
Qu'est-ce qui se passe? Il va devenir fou ou quoi?
À la fin de la chronique, on ressemblera plus à rien, il y aura de la dubstep dans tous les sens.
Non, ça restera compréhensible hein, quand même. Mais par exemple dans le dernier les filles versus les geeks, j'ai mis un peu de MLG dans l'introduction. Il y avait j'essaye de réutiliser les codes du MLG à la sauce chronique. Voilà.
Pour marquer quand même les passages un peu what the fuck, c'est assez utile quoi, on va dire.
Ouais, voilà, c'est très utile. Ouais. Puis vu que j'adore le what the fuck, je me prive pas pour m'en servir.
Et du coup côté réflexion, bon, je pense qu'il y a toujours Usul de ce côté là mais là ce sera pas côté que par exemple des vidéastes, ça peut être très bien des artistes, des auteurs.
Côté réflexion, je dirais Usul. Après oui, ça peut c'est aussi des auteurs qui font, mais bon après ça n'a rien à voir à ce que je lis en général, ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur internet, parce que créer un épisode, je vais surtout faire des recherches un peu à droite à gauche. Et vu que ce sont toujours des sujets qui sont jamais les mêmes, ben je peux pas dire que j'ai un auteur qui va m'inspirer. Mais sinon, les auteurs qui m'inspirent, j'aime bien Céline, j'aime bien Dostoïevski, j'aime bien plein de choses.
Ouais, peut-être tu es un homme de lettres, donc.
Je suis un homme de lettres, oui.
Je pense que ça se passe partout, et de dire que tu es un homme de lettres.
Ouais, ça se passe partout, c'est ça qui est pratique, en fait.
Ouais. Et du coup, côté jeux vidéo, peut-être pas inspiration, mais peut-être plus ce que tu apprécies comme style de jeu, comme un jeu que tu considères comme étant le meilleur.
Bah, j'adore, moi je suis vraiment scène indépendante, hipster jusqu'au bout. Mais j'aime bien jeux vidéo, j'aime bien Braid, World of Goo, Limbo, Bastion, Hotline Miami.
Évidemment.
Il y avait quoi d'autre comme jeu que j'ai bien aimé, Super Meat Boy, Isaac, donc on en parlait tout à l'heure en privé.
Oui.
Cladal d'ailleurs qui a fini The Binding of Isaac, le nouveau, à 100%, je tiens à le souligner. Voilà, ouais. Comme ça je petite heure de gloire pour toi, c'est quand même c'est quand même à noter.
Vous pouvez aller voir sur mon Twitch, j'ai fait un highlight de ce moment du 100%, ouais, j'ai gueulé comme un ouf.
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, en général, je vais beaucoup m'intéresser aux jeux vidéo de la scène indépendante. Voilà. Sinon, les inspirations, j'ai commencé. Moi, j'étais très PlayStation, donc j'ai fait les jeux qui m'ont marqué. C'était Oddworld, quoi d'autre, Vagrant Story aussi. J'ai adoré, vraiment un super jeu.
Final Fantasy, touché, voilà, classique, j'allais dire. Final Fantasy, ouais. 7, 8, 9.
Ouais, voilà. Je suis assez classique en fait au niveau des inspirations.
Est-ce que tu as touché à Crash Bandicoot ?
Bah oui, énormément.
Ah.
J'ai fini Crash Bandicoot 3 en ayant toutes les reliques de platine.
Oula, là on a du niveau. Je t'applaudis.
Je joue énormément. J'ai énormément joué à Crash Team Racing. Je crois que j'y ai passé des heures et des heures.
Ah, tu es un vrai alors. Toi, tu n'es pas de ceux qui jouent à Mario Kart.
Ah non, 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 non. Mario Kart, c'est pour les noobs.
Non, alors, faire plein d'ennemis dans le chat.
Je vais faire des ennemis là.
Mais non, c'est pour équilibrer parce qu'en fait, sur d'autres lives, il y en a qui disaient que Crash Team Racing c'était de la merde, c'était mieux Mario.
Oui, c'est,
donc on équilibre.
C'est le débat, oui. Est-ce que Crash Team Racing est mieux que Mario Kart? Moi, je suis catégorique. Crash Team Racing est 10 fois mieux que Mario Kart. Enfin, pour moi.
c'est notre carte du cœur, on va dire.
Ouais, c'est ça. Après, les goûts et les couleurs.
C'est tout ça.
Mais techniquement, alors, ce que j'aimais bien dans Crash Team Racing, c'était les dérapages, quoi. Tu pourras plus optimiser ta course avec Evo que sur Mario Kart, je trouve.
C'est vrai, après, il y a différents styles de dérapage, tout ça. Donc, après, c'est à chacun de trouver son dérapage à lui, son dérapage du cœur, encore une fois.
Voilà. C'est ça. Il y a Rémi tout court qui me demande, Pénidia, est-ce que tu crois qu'être un hipster bobo gauchiste, ça le fait sur YouTube? Ça dépend, j'ai envie de dire.
Ça dépend, alors. Voilà. Parce que, il y a peut-être une mode après le bobo gauchiste.
je suis désolé, ma réponse est très courte, mais.
Mais elle est suffisante, hein.
Elle est suffisante, elle se suffit à elle-même, en fait.
Voilà. Ouais, Dragos qui relance le débat, le meilleur c'est Sonic All-Star Racing Transform.
Alors, j'ai jamais joué.
Ah bah, donc, il est pas mal, oui, quand même. On a fait une partie hier soir en live, c'était plutôt pas mal. Mais oui, Dragos qui me dit, bourrez les dents pour que j'ai la fibre, effectivement, ça permettra de faire de meilleurs streams. Actuellement, c'est en train de drop chez vous, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça va revenir. Alors, pendant ce temps, nous, on va continuer. Ah, on arrive un peu aux questions rigolotes. À quand un hors-série spécial Trash Talk sur Morandini avec le dieu Jean-Pierre Coff?
Alors je sais pas du tout, ça pourrait se faire, en général j'avais fait une YouTube poupe pour les 5000 abonnés, donc peut-être pour les 10 000 abonnés je ferais ça, ouais. Ça pourrait être sympa, une petite YouTube poupe. En général je me suis dit à chaque fois que je franchirais un cap dans les abonnés je ferais une petite YouTube poupe où il y aura Morandini ou Jean-Pierre Coff dedans.
Les deux grandes inspirations, on le rappelle.
Voilà, on le rappelle, ouais.
Bon, justement, j'avais prévu la question, mais on n'arrête pas d'en parler, donc j'avais prévu de te demander si t'étais fan des YouTube parce que t'en mettais beaucoup dans tes vidéos. Mais voilà, on y a répondu. Alors oui, il y a un truc aussi, c'est que, peut-être pas aussi, j'allais dire récemment, mais ça date peut-être un peu, on voit souvent au début de tes vidéos un certain mafia YouTube. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la mafia YouTube ?
Alors, la mafia YouTube, c'est un collectif qu'on a fait donc avec Jackie, donc qui fait, qui réalise Clash of Jackie. C'est un collectif qu'on avait fondé pour réunir des vidéastes. C'était vraiment l'idée, c'était de partager les autres un maximum. Du coup, voilà, c'était une idée toute conne.
Un petit réseau. Où,
le but c'était de voilà, c'était de former un crew en fait, une mafia. C'est ça l'idée.
Bloc.
On avait pris cette idée par rapport à la mafia. Un truc qui nous est resté, c'était la mafia Nesblog. Les gens disaient tout le temps ça, ouais, c'est la mafia Nesblog, c'est la mafia Nesblog. On s'est dit, on va faire la mafia YouTube. Voilà, ça, on a trouvé
encore
ça
plus gros.
Voilà.
Et actuellement, vous êtes combien
Moi je suis plus dans la mafia YouTube, du coup je suis parti.
Ah d'accord.
Mais là je crois qu'ils sont 3-4. Ouais, je suis parti, ouais.
Fondateur qui est parti.
Ça ouais. Enfin en fait, le problème c'est que c'est parti un peu dans le trolling, il y avait beaucoup de trolling et puis moi j'ai fini il y avait beaucoup de d'internautes qui faisaient dans le trolling, puis moi j'ai fini à moins je me sentais moins à ma place en fait. Il y a eu quelques affaires aussi, quelques histoires qui ont fait que je suis parti. Mais après, je reste en très bon terme avec eux, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est un peu bizarre, comme tu dis, le fondateur qui part. En fait, on était deux fondateurs et l'idée, c'était vraiment l'idée que j'avais du truc, c'était qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de chef en fait. Les gens
postulaient,
ils envoyaient leur chaîne. Voilà.
Un seul chef.
Ils envoyaient leur chaîne et puis on voyait si on les prenait ou pas suivant la qualité de leur travail, mais il y avait pas de chef en fait. On a fondé le truc mais voilà, c'était libre quoi.
Effectivement, je disais il y a un chef mais fictif pour la chaîne, enfin pour la mafia.
C'était le chef fictif, c'était Roy en fait, c'était ça.
Il t'inspirait de qui parce que c'est quand même une photo, c'est une tête de qui en fait.
Ouais, c'est Roy donc qui fait des vidéos sur YouTube, qui fait des podcasts un peu cheapos. Donc on s'était dit ça allait être marrant de réutiliser sa tête. Puis après, moi ça m'a moins plu l'idée, donc ça m'a un peu poussé vers la sortie.
Voilà. T'avais peur peut-être qu'il se rende compte de cette blague qu'il n'apprécie pas trop ou...
Voilà, c'était ça aussi. Il y avait ce côté-là. Bon après, il a fait une FAQ où il disait qu'il s'en foutait, mais sur le coup ça m'avait un peu...
Il s'en foutait peut-être pas tant que ça.
Ouais, voilà. Voilà, voilà. En fait, je trouvais que l'idée était drôle au début, puis après, j'ai trouvé que c'était peut-être moins drôle parce que je voulais pas que ça tombe dans une forme de bashing, ou, tu vois, que, et puis vu que l'esprit du groupe se tournait plus vers le trolling, eh ben, ça pouvait faire penser qu'on se moquait de lui, alors que moi, c'était pas l'idée que j'avais à la base du truc. Voilà. En gros.
Encore une fois, c'est pareil, on disait les idées, il faut les laisser reposer avant de se jeter dedans.
Après, je reste en très bon terme avec les gens de la mafia YouTube,
oui.
Y a pas de souci. Mais disons qu'on n'est pas sur, on n'est pas sur la même, les mêmes idées de ce qu'on fait dans notre travail. C'est pas les mêmes catégories en fait. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention quand on fonde un crew avec des gens d'internet. Parce que tu sais pas trop vers où ça va se diriger et tu peux vite ne pas te sentir à ta place. Donc moi je même si t'es en bon terme avec les personnes, faut faire attention quoi.
Ouais, c'est pour ça personnellement de ce que j'en pense de ce genre de crew etc, c'est que il faudrait pas non plus en fait laisser la porte ouverte à tout le monde. Ce serait plutôt faudrait même pas faire des demandes pour rentrer, il faudrait que ça se fasse naturellement. C'est-à-dire faudrait vraiment que la personne ne demande même pas à rentrer. Et plutôt que, avec le feeling qui se crée avec cette personne-là, que tu sentes que ça, tu peux travailler avec elle et qu'elle peut rejoindre le crew naturellement, sans avoir besoin de l'inviter. Je te dis petit à petit, bah écoute, bah rejoins-nous quoi, parce que t'es avec nous, tu bosses bien, etc. quoi. C'est pour ça, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de crew qui laisse les invitations ouvertes. Moi, je sais pas ce que t'en penses.
Si. Non, mais c'est vrai, t'as raison sur le fond. C'est vrai que faut que les choses se fassent naturellement. Je pense que c'est comme ça que ça se passe le mieux au final.
Ouais.
C'est vrai.
Et là, on te voit sur ce magnifique épisode en train de donner de la nourriture à un SDF.
Ah oui, oui, celui-là, oui. Ouais, bah, celui-là, je me suis un peu moqué des. C'était une période où je voyais beaucoup de vidéos de gens qui se filmaient pour aller donner de la bouffe aux SDF. Et je trouvais que ça avait un côté un peu hypocrite. Enfin, t'as pas besoin de te filmer si tu veux pour donner, pour faire une bonne action, quoi.
Oui.
C'est pour ça que j'avais fait ce sketch.
Bah justement, c'était la période du Ice Bucket Challenge, non?
Non, c'était un peu ça. Il me semble que c'était. Oui, si, c'était peut-être pendant le Ice Bucket Challenge.
Bah, je vois Zuckerberg là qui est en train de se foutre un soda sur la gueule, donc je pense que c'est ça. Ouais. Et ouais, justement, c'est à propos de ça, PewDiePie, il y avait justement un. PewDiePie, je sais plus, je suis perturbé maintenant avec la fausse prononciation et la vraie, qui avait justement pour l'Ice Bucket Challenge refusé en disant que plutôt que de faire un challenge un peu débile comme ça, il préférait plutôt donner de l'argent et expliquer aux gens via une vidéo ce que c'est exactement. Je trouvais plutôt une occasion assez louable.
Oui, c'est clair, parce que c'est vrai que on se donne des prétextes pour donner de l'argent en fait. Mais
oui.
C'est plus une mode en fait, finalement, ça va.
Après, c'est vrai que ça réussit à ceux qui demandent l'argent, parce que c'est quand même une cause assez louable. Mais après que les gens ne savent pas pourquoi ils donnent et pourquoi ils font ça, c'est un peu bête.
Oui, voilà, c'est ça, quand quelque chose devient connu, t'as toujours des gens qui vont faire ça, mais sans savoir d'où ça vient au final. À base, c'était pour la maladie de. Tu regardes la vidéo, la vidéo qui avait été lancée, c'était pour un mec qui parlait de, je sais plus si c'était sa mère, qui avait la maladie de Charcot, je crois. Mmh.
Je sais plus le nom exact, mais je sais que la maladie, c'est au niveau des nerfs.
Elle te paralyse complètement,
ouais.
Je crois.
Ouais. C'est pour ça qu'il force dans l'Ice Bucket Challenge à faire de l'eau glacée pour te refaire à cette réaction.
Pour te réveiller en fait, quoi, comme si tes muscles d'un coup ils s'animaient, quoi. Mais c'est un peu le problème du truc, c'est que finalement tu vas voir, vu que ça est devenu super connu, ben tu vas avoir des gens qui vont le faire juste pour dire je fais le Ice Bucket Challenge
parce que c'est à la mode, c'est trop cool,
voilà, parce que c'est swag. Donc c'est le côté un peu rebutant de la chose.
Alors oui, on se retrouve après un incident technique, un internet qui décide de sauter les plombs. Donc je suis toujours avec Pianizza. C'est bon, je suis toujours là, donc ma connexion n'a pas encore sauté. Tout va bien.
Je suis toujours là.
Voilà, alors on va reprendre où on en était. Oui, d'ailleurs on en était où? On en était à propos du Ice Bucket Challenge.
Ouais, il me semble.
Bon, je pense qu'on a commencé à avoir fini de faire le tour.
Je sais plus ce qu'on disait.
Bah,
je sais
plus
ce qu'on disait exactement sur le.
On en avait fait le tour, voilà.
On avait dire qu'on avait fait le tour, ouais.
Voilà. Alors, oui, pour continuer dans mes questions avant de passer à celles des personnes dans le chat, même si on en a un peu traité. Alors, oui, tu disais donc que tu avais quitté la mafia YouTube, mais tu as rejoint récemment la vidéothèque d'Alexandrie. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est?
J'étais déjà dans la vidéothèque d'Alexandrie à un moment quand j'étais dans la mafia YouTube, mais en gros, c'est. Je pense que c'est le plus gros référencement sur Facebook de vidéos culturelles et éducatives. La vidéothèque d'Alexandrie, donc tout le monde peut rejoindre. Il suffit de faire une demande. Il y a un groupe où on peut soumettre sa chronique au vote, donc des autres vidéastes, et on peut être sélectionné, et on peut être pris sur la vidéothèque d'Alexandrie. Tout le monde peut la rejoindre en gros. Vous arrivez à passer le vote du public,
est-ce qu'il doit se faire unanimement, justement, ce vote?
Ouais, alors il faut avoir plus de 70% de oui, il me semble, mais je suis pas sûr, j'ai peur de dire des conneries. Donc c'est des votes anonymes, donc tous les
ouais, pas les taper ceux qui ont voté non quoi.
Peuvent voter. On peut pas les taper. Avant c'était pas anonyme, mais c'est devenu anonyme.
Ah, il y a eu des gens qui se sont fait taper alors.
Ouais.
Ouais, ah, les dramas.
Mais c'est une pub qui a, c'est une page, c'est vraiment bien pour ceux justement qui voudraient un peu faire grandir leur chaîne et qui manquent de visibilité. C'est vraiment une bonne opportunité parce que si vous êtes pris, vous aurez votre vidéo qui sera partagée sur la page qui a maintenant 6000 j'aime, je crois, à peu près. Donc,
c'est pas mal comme score. Enfin,
c'est vraiment super. Qui a été, page qui a été fondée par Nota Bene et Code Ému. Voilà. Je le sais parce que j'étais là au tout début quand la page s'est créée.
Tu étais là à la création de toute chose.
J'étais là à la création. J'ai vécu ce moment inoubliable.
Avec zéro follower. Tu pourras dire que t'étais là quand il y avait personne sur la page.
J'étais là quand la page avait zéro j'aime. J'étais là. Mais il y a plein de très bons youtubeurs dedans. Donc il y a Nota Bene, Code Ému, il y a Dirty Biology, il y a
La tronche en biais, je crois.
Fil. La tronche en biais, oui, exact, qui est excellente chronique aussi. Il y a de très bons youtubeurs, donc vraiment, si vous connaissez pas, allez faire un tour. C'est tout ce que je peux vous dire.
D'accord. Alors, maintenant, les quelques dernières questions qui nous restent, que j'avais préparées, c'est, on va dire, du classique pour ceux qui viennent, pour les différentes interviews. Et c'est un peu pour ce quoi tu es là. C'est du coup, comment as-tu connu Joueur du Grenier et quel est ton épisode préféré?
Alors, Joueur du Grenier, je l'ai connu. C'était un pote, je crois, qui m'avait montré son épisode sur Dragon Ball. Donc, je sais plus lequel c'était. C'était un des premiers qu'il avait fait. Comme ça que je l'ai connu. Voilà, j'ai regardé tous ses épisodes, je les connais tous. Je continue à regarder aujourd'hui. Je suis un fan. J'ai connu ça grâce à un pote.
Et ton épisode préféré, du coup, si tu pouvais en citer un?
Je dirais que c'est celui sur les RPG.
Ah,
il est assez énorme, celui-là.
Je pense que ouais, les RPG, c'est,
ouais, c'est un des meilleurs et ça reste un des meilleurs pour moi. Je l'ai vu des tonnes de fois, celui-là, et j'adore quand il teste le dernier jeu là. Ah putain, j'ai oublié son nom. Et à un moment, il dit. Mais le problème surtout dans ce jeu, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que c'est méga moche.
Méga moche.
Et c'est en effet un jeu ultra moche.
Virtual Euclid.
Il y a beaucoup de vannes assez énormes. Quand par exemple il joue en mode, en fait dans le jeu, plus tu portes d'équipement, oui, plus l'image va être ralentie, donc tu finis par jouer en mode diaporama.
PowerPoint, enfin, ouais.
En mode PowerPoint, ouais. J'ai oublié le nom de ce jeu d'ailleurs.
Oui, Virtual Eclid, c'est ça que je disais.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc,
justement, dans les RPG 2, en plus, il a parlé de, je crois, de Super Virtual Eclid, qui était justement l'épisode d'avant. Il y avait des trucs un peu bizarres aussi qui se passaient dans ce jeu, sans que tu comprennes pourquoi. Une grande trilogie, apparemment, les RPG. RPG 3, possiblement l'année prochaine. Sachant que beaucoup l'attendent.
Bien, bien, bien.
Du coup, les Disney, peut-être t'es pas loin derrière ton classement, non?
Oui, Disney aussi, ouais, bien sûr. Ah, oui,
c'est ceux qui ressortent le plus, ouais, les RPG Disney. Ouais, voilà.
Ouais, c'est vraiment les deux épisodes qui ont bien marché. Le coup des développeurs là, Activision. Activision, pardon, Infogrames.
Oui, Infogrames, oui. Infogrames. Les chansons des mauvais jeux.
Ouais, ça, c'était bon ça aussi.
Et du coup, oui, dans les JDG, qu'est-ce qui te plaît le plus au final? Que ce soit en termes de jeu, de manière de présenter les choses au montage. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu les revois?
D'ailleurs, j'ai toujours voulu savoir qui est-ce qui montait JDG, si c'était Seb ou Fred.
Alors en fait, Fred fait le montage.
Ouais.
Ensuite, Seb, lui, va faire tout ce qui est post-prod, tout ce qui est fond vert, etc. Okay. Et une fois que tout ça, ouais. Et une fois que, et même à trois, une fois que tout ça est fini, mais c'est un peu plus récemment depuis qu'ils sont arrivés en Bretagne, il y a une dernière phase qui est le mixage sonore, qui ça est fait par Sigou Simouche. Voilà.
D'accord, ok.
Il y a vraiment trois phases importantes dans le montage de l'épisode, d'un épisode.
Moi, ce que j'aimais bien, justement, c'était voir l'aspect technique. C'est vrai que techniquement, ça reste une une des chroniques les plus abouties sur YouTube français. Donc c'est, à chaque fois que je vois un épisode, je me fais plaisir en me disant ah ouais, il a fait l'animation comme ça, ok. Ça, c'est une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de vidéastes. Qui c'est une chose qui m'a, c'est une chronique qui m'a fait dire ah ouais, en effet, c'est possible. De réaliser t'es pas forcé d'avoir une grosse équipe pour réaliser quelque chose de bien en fait. Et c'est ce que m'a fait dire JDG, c'est que voilà, c'était au niveau des ce qui m'impressionnait, c'était vraiment les effets, le montage,
travailler si peu de personnes.
Voilà,
si...
c'est ça.
D'ailleurs, si on compte bien, il y a combien de personnes à la réal? Ils sont 3 à l'écriture, mixage son Nico. Ils sont 4.
Ouais, il y a Karim Debache qui est
ouais, à l'écriture. Ouais. Il y a Sean Guy qui fait les costumes, donc on va dire 5. Et Sorina qui a de temps en temps. Donc ils sont au maximum 6 sur les épisodes avec quelques caméos. Donc voilà.
Ouais, ils sont beaucoup plus qu'au début maintenant. Ouais.
Mais c'est pas non plus un grand nombre, quoi. C'est juste qu'ils sont un peu plus professionnalisés avec chacun à sa petite spécialité, quoi. Mais sinon, à la base, ils étaient que 2, oui.
Ouais, c'est ça. C'est qu'à la base, ils ont commencé à 2. Ils ont bien exploité leur truc, quoi.
Alors, maintenant que... Vas-y.
Ouais, vas-y. J'ai juste dire, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils en sont à 50 épisodes. Donc,
c'est vrai.
Pas mal, quoi.
Alors oui, du coup, maintenant, comme j'ai fini mes questions, on va pouvoir passer un peu à celle du chat. Je vais essayer de sélectionner. Alors, on en a pas okay. Répondu. Alors, j'en ai vu une intéressante avant que que ma connexion crash. Non, c'est pas celle-là. Je crois que j'en ai vu de... Yohan non plus. Bah dis donc, bon c'est pas grave, on va choper une des dernières.
Si, j'en ai vu une de Yohan qui était pas mal.
Alors que penses-tu des propos d'un certain G entendu dimanche qui proposait de se forcer à rejoindre notre public?
Oui. Oui, alors en fait dimanche donc à la Web Media Action, il y a eu Gonzague TV qui est venu faire une petite conférence aussi et qui nous a dit que en effet sur internet 70% du public, ça va être des jeunes en fait. Ça va être des gens qui ont entre 10 et 15 ans. Et donc il faut s'adapter à cette cible et faire des programmes qui soient adaptés à cette cible. Donc forcément les chroniques culturelles elles vont pas attirer cette cible parce que les jeunes ils vont plus aller vers du
vers du
Squeezie, vers du Cyprien, des trucs comme ça quoi.
Ouais.
Du coup, ça a un peu animé la salle qui disait ouais, mais nous, on va pas se forcer à faire du Squeezie juste parce qu'il y a 70% de l'audience, 70% c'est des jeunes quoi. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense qu'il a raison parce que il a raison d'un côté et puis il a tort de l'autre parce que. Il a raison dans le sens que si tu es sur internet pour te faire connaître, ce qui moi est une idée qui me déplaît un peu, eh ben il va falloir que tu fasses du Squeezie quoi, il va falloir que tu filmes pas scam, que tu dises des conneries parce que c'est ce qui plaît aux jeunes quoi, les gens qui viennent sur internet, ils sont pas forcément là pour se prendre la tête et apprendre des choses, ils ont peut-être juste envie de se détendre, voilà, de rigoler un coup quoi.
Et là, on en revient à une discussion qui me rappelle celle d'Alexandre Astier, qui était passé à la télé à propos de justement ne pas confondre ceux qui se prennent la tête et ceux qui réfléchissent.
Ouais. Les gens disaient oui, mais le public il évolue, les gens ils sont pas là. Enfin, il y a de plus en plus de, par exemple, la vidéothèque d'Alexandrie, c'est un bon exemple. Il y a de plus en plus de gens qui veulent voir des trucs éducatifs. Donc qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense tout simplement que faut faire ce qu'on a envie de faire et puis voilà, c'est tout. En général, si tu fais ce que tu as envie de faire et que tu mets les moyens de le faire, que tu fais vraiment ça avec passion, t'auras quand même un public qui te suivra au final. Puis là, c'est la preuve, par exemple, tu vois, des mecs comme Y Penser, comme Axolot, enfin toutes les chroniques culturelles ça marche vachement bien quoi, donc
ça émerge beaucoup oui en ce moment
surtout cet été en fait, cet été il y a vraiment une explosion surtout en fait c'est vraiment en 2014 qu'il y a eu une explosion de chaînes culturelles, elles sont toutes arrivées en 2014 donc je trouve que Gonzague a raison en disant qu'il faut s'adapter il faut s'adapter aux jeunes aussi, mais il faut quand même rester, faut pas faire quelque chose pour t'adapter à un public. À la base, faut faire quelque chose parce que t'as envie de le faire, et voilà quoi.
Mmh. Et comme le dirait Karim Debbache avec des mots forts, c'est faut pas être la pute du public non plus. C'est voilà, vraiment c'est déjà se focaliser sur ce que toi t'as envie de faire et pas faire des épisodes à la carte. Ça c'est par contre c'est JDG qui dit plus souvent.
après je dis pas par exemple un mec les gens auraient tendance à penser internet c'est facile, j'ai juste à faire du Squeezie, mais tout le monde n'a pas la niaque de Squeezie par exemple, tu vois.
Ouais.
Squeezie s'il fait ça c'est qu'il est fait pour ça aussi, je pense, et qu'il le fait vraiment moi j'aime pas les voir des let's play et tout, ça m'intéresse pas, mais si le mec il est fait pour ça, il je pense pas qu'il
réussira quoi.
Je pense pas qu'il le fait en se disant je vais faire ça pour. Je pense qu'il est fait pour faire ça aussi, tu vois. Donc c'est pas si ça marche, c'est pas anodin quoi.
Mmh. Ouais, déjà, je veux dire si ceux du chat veulent se rendre compte, par exemple, le nombre de personnes qui font des let's play, je vous invite à aller sur le forum JDG, regarder la catégorie let's play et voir le nombre de topics qu'il y a. Vous verrez que vous ne connaîtrez peut-être aucune des personnes citées. Ça prouvera bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent sans forcément que vous les connaissiez. Donc c'est pas forcément une bonne idée de se dire que le let's play c'est facile. Même si certains proposent du bon contenu, quoi. Il n'y a pas à dire.
Ouais. Ah ouais, il y a quand même du bon contenu dans les let's play, c'est clair.
Que la personne ait du contenu à proposer. Alors nous avons iHawk qui a une question. YouTube se développe à vitesse exponentielle, mais un jour ça tombera. Et ce jour-là, que faire? Ma question est, sur quelle plateforme ou média travailler avec ou après YouTube et qu'il peut avoir une certaine pérennité dans le temps? Oula. Est-ce qu'il peut avoir une certaine pérennité dans le temps?
Ok, ouais. Oui, c'est clair que YouTube se développe à vitesse grand V, mais un jour peut-être que YouTube tombera, je sais pas. Oui, mais pas tout de suite, je pense qu'il a YouTube a encore un grand avenir devant lui. C'est un média qui est encore jeune, il y a encore plein de choses à faire. Justement, tu vois, par exemple, il n'y avait pas de chronique culturelle en France, et ben là, ça arrive. Donc, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dessus. Et enfin, YouTube c'est associé à Google maintenant, donc est-ce que ça va s'effondrer un jour? Je pense que ça sera dans longtemps. Après, si le média s'effondre, ben, pour l'instant, il n'y a pas un média qui lui arrive à la cheville, quoi. Donc, où est-ce que tu pourrais aller après, je sais pas.
Johan nous dit justement qu'il y a Vimeo qui est beaucoup moins regardant au niveau du droit d'auteur.
Ouais. Bah, alors, Vimeo, c'est plus, moi je trouve, je connais pas bien Vimeo, je suis pas trop là-dessus, mais c'est plus pour une plateforme pour les professionnels, parce que déjà c'est payant, je crois, si tu veux mettre, si tu veux mettre plus d'un certain nombre de gigaoctets en ligne, t'es obligé de payer déjà, je crois.
Ouais.
Ouais. Donc c'est plus une plateforme professionnelle, ça reste quand même moins accessible que YouTube, même si sur Vimeo il y a quand même beaucoup, tu vas vraiment trouver des trucs géniaux quoi sur Vimeo. C'est vraiment, il y a plus de qualité que sur YouTube sur Vimeo, mais ça reste à côté de YouTube, ça reste petit quoi.
Après, comme ça, effectivement, si YouTube explose, de toute façon, les gens retrouveront, je pense, une place quelque part. Et même si, par exemple, sur Vimeo, malheureusement, si Vimeo récupère tout la grosseur de YouTube, même si actuellement il est pas très regardant sur le droit d'auteur, etc., il y a forcément un moment où ça va tellement se développer que ces choses-là vont revenir. Elles reviennent à chaque fois, ces choses de droit d'auteur et de censure, plus ça grossit. On a pu voir justement le cas avec Twitch. Qui au début était génial parce que c'est une plateforme de streaming, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était génial. Puis à force de grossir, de se faire racheter à droite à gauche, d'être utilisé un peu par-ci par-là, les droits d'auteur ont commencé à pointer leur nez parce que justement les ayants droit ont vu le potentiel de la chose et se sont dit on veut notre part du gâteau quoi.
Ouais.
Un peu le souci des choses qui grossissent quoi.
Ouais, c'est ça, c'est toujours le souci, mais encore je trouve que YouTube pour l'instant, c'est vrai que t'as la pub, mais si tu veux, la pub, tu peux la bloquer, quoi. Tu mets AdBlock et puis c'est bon, quoi. T'es tranquille. Mais pour l'instant, YouTube, c'est vrai que le côté relou, c'est les droits d'auteur. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois en mettant mes vidéos en ligne. Oui, voilà, votre vidéo ne peut pas être en ligne parce qu'il y a des images de tel film ou telle musique. C'est un peu chiant, mais. Encore
après
ça,
pour là. Ça il y a des règles, non? Je crois qu'il y a des règles de la loi française qui disent par exemple qu'il faut pas exploiter plus de 15 secondes d'une même œuvre.
Oui, je crois que c'est un truc comme ça, ouais.
Ouais.
Bah, par exemple, moi, j'ai eu un problème sur l'épisode sur les réseaux sociaux, j'avais mis des extraits du film Social Network, et j'avais bien mis, on voyait bien des images, j'avais carrément mis tout le teaser, ça faisait bien 15-20 secondes, et là, je me suis fait niquer, donc du coup, j'ai dû revenir sur le montage, et j'ai viré les images, et j'ai mis d'autres choses à la place, puis voilà, quoi. Donc, c'est dérangeant, mais encore, c'est pas trop dérangeant. Après, ça pourrait...
Tu sais comment le contrer, quoi.
Plus tard. Ouais. Si tu cherches un peu, tu sauras comment le contrer. Par exemple, l'épisode sur les séries, j'avais mis... là, je vais utiliser beaucoup d'images de séries différentes. Je me suis dit, ah, je vais me faire niquer et tout. Ça va pas passer avec les droits d'auteur, mais non, c'est passé. Donc, voilà. Donc, ils sont encore assez indulgents sur le truc. Après, ça pourrait empirer. Hein. C'est possible. J'espère pas. J'espère pas.
Après, t'as aussi tout ce qui est network, justement, qui protège de ce genre de choses.
Oui, après t'as le network qui te protège. Ouais. Donc, ça peut passer aussi. Mais pour l'instant, je trouve pas que c'est trop, trop dérangeant. Ça va. Si t'es malin, tu peux contourner le truc et tu peux mettre un effet miroir sur ta vidéo, des trucs comme ça qui feront que le boot YouTube ne détectera pas.
Pianisa, dévoile les astuces, écoutez bien.
Il y a plein d'astuces. De toute façon, on est toujours un peu en avance sur Adopi. Hein.
Ouais, ça reste des bots après, donc c'est pas non plus
Ça reste des robots. Hein. Ça reste des robots.
Alors niveau question, ça défile pas trop, ça argumente plutôt avec Johan qui est pas mal attaqué. Ayok aussi pas mal attaqué.
J'aimerais bien tout lire, mais c'est vrai que parler et lire en même temps c'est un peu dur. Ouais.
Alors Johan nous dit donc YouTube, s'ils sont aussi gros, c'est parce qu'ils acceptent les exigences des ayants droit majeurs, etc. Du genre à piquer les droits de diffusion des vidéos YouTube lorsque tu utilises 5 secondes de leur vidéo, qui est complètement hors la loi, qui autorise l'utilisation des courts extraits. Oui, parce que justement, il y a aussi ça, je l'ai vu en regardant des vidéos de Durandal, par exemple, c'est que dans la législation, t'as le droit d'utiliser des extraits de plus de 15 secondes, comme on avait dit, par exemple, tant que t'as une justification du type critique. Ça, c'est un extrait tiré de la loi, et justement, Durandal expliquait que ce qu'il faisait, lui, c'est copier-coller l'extrait de la loi en disant, j'ai le droit, laissez-moi tranquille, vous avez pas besoin de striker ma vidéo, parce que je fais une critique, j'ai le droit d'utiliser des éléments du film. Après, YouTube lui répondait pas, il disait à la limite d'aller se faire foutre, mais bon, c'est... ça reste des choses quoi, qui sont techniquement possibles par la loi.
Ok.
Alors, ah oui, voilà, c'était ça, merci Rémi tout court de rappeler la question que j'avais notée mais que j'ai oubliée. Il te disait, est-ce que tu as eu des retours vidéo violents sur la vidéo des filles, comme on peut souvent en voir quand ça parle féminisme?
Alors, c'est une bonne question parce que... j'ai pas eu des retours violents, non. C'est marrant parce que sur cette vidéo que je considère de mon point de vue comme la vidéo que j'ai la mieux réalisée, c'est celle où j'ai eu le plus de dislikes en fait. Et ça,
ah, mais il y a des gens, ça va être dislike dès que ça parle féminisme quoi. C'est
comment,
c'est justement comme il disait, comme ça parlait féminisme, je pense qu'il y en a, ils ont pas trop réfléchi, ils ont dit c'est nul, ils parlent de Marlard et ça parle féminisme. Ouais.
Disons que c'est ce que j'ai remarqué donc en lisant l'article de Marlar, c'est que dès que tu abordes ce sujet, c'est systématique, t'auras forcément une levée de bouclier. Donc je m'attendais à avoir des critiques, oui. Mais j'ai pas eu de réaction violente, j'ai pas eu de mecs qui m'ont écrit je te crèverais bien Pianizza, tu vois. Ah si j'ai le stagirite qui me l'a écrit.
Ah d'accord.
Mais en rigolant.
C'est vrai que ça fait plaisir en rigolant comme ça.
moi, ça me fait rire de lire des trucs comme ça.
Ouais, donc Johan nous précise aussi que la loi autorise même plus que les courts extraits dans le cas des critiques, des cours universitaires et de la parodie, entre autres. Plusieurs justement cas comme ça où t'as le droit d'utiliser des extraits de plus de 15 secondes. Donc d'accord, c'est justifié.
Okay. Voilà. C'est bon à savoir, je ne savais pas toutes ces choses-là. Merci Johan.
Effectivement, le professeur Ben nous dit aussi modifier légèrement le pitch de la musique, des fois ça passe.
Ouais, tu accélères un peu la musique, tu la ralentis, ouais, ça peut passer aussi.
Mais ce qu'il nous dit réfléchir, mais c'est pour les teubés en citant le bof de base. Merci Dragon Ball.
C'est trop long, trop compliqué.
Alors, Ayok nous disait du coup le plus gros risque qui peut restreindre, et je reprends les paroles de notre cher Fantasio, comme tout le monde active AdBlock justement, comme tu me dis, c'est que ceux qui tirent les ficelles obligent les gens à payer un abonnement pour remplacer les pubs non visionnées par tout le monde pour accéder à YouTube. D'accord, je vois ce qu'il veut dire. Alors. Effectivement, c'est que comme tout le monde active Adblock, au final, le seul moyen qu'ils ont de récupérer de l'argent, les youtubeurs, bah, sautent. Parce que les gens l'activent et ne le désactivent plus au compte-gouttes. Alors, c'est ce qu'il faudrait techniquement faire. C'est-à-dire, bah, tu désactives Adblock parce que t'aimes bien ce contenu-là. Et tu le bloques là parce que t'aimes pas ce qu'ils font. Et puis voilà, quoi. Et justement, ils sont, ces gens-là sont obligés de passer par des Tipeee, des financements participatifs, etc. Alors que YouTube pourrait amplement suffire.
Bah, sur YouTube, si tu t'attends à gagner ta vie, franchement, pareil que les vues, il faut au moins faire 500 000 vues par mois, quoi. Donc, tant que t'es pas à cette moyenne-là, si les gens ils mettent Adblock sur tes vidéos, tu t'en fous. Moi, là, par exemple, je fais à peu près une moyenne de 30 000 vues. Je crois une moyenne de 30 000 vues par mois pour l'instant. Donc, je gagne à peu près 25 € par mois, quoi. Voire moins avec le network. Donc, moi, j'en ai rien à foutre que les gens ils mettent Adblock pour l'instant, tu vois. Après, je le dis, je mets Adblock parce que moi ça me fait chier royalement de me taper la pub à chaque fois. En plus je regarde énormément de vidéos, donc si à chaque fois je lance une vidéo je dois me taper 30 secondes de pub, ça me fait chier, quoi.
Ça nous rappelle le temps de cerveau libre.
Ouais, voilà.
Fameuse pub.
Après c'est vrai que par exemple pour des gros youtubeurs que t'aimes vraiment bien, c'est bien de désactiver Adblock. C'est en effet ça les aide, quoi. Mais quand t'es petit youtubeur, à la limite voilà, ça change pas grand chose, quoi, franchement.
Après justement c'est au choix des gens de faire, hein,
après moi je dis les gens, par exemple les gens qui ont Adblock et qui vont voir mes vidéos en désactivant Adblock, je leur dis merci, quoi. C'est vraiment, enfin c'est cool, quoi. Mais ceux qui ont la flemme de le faire, c'est pas grave, je vous en veux pas.
Ouais, on les comprend aussi, donc vous inquiétez pas.
Je comprends totalement, parce que la pub c'est tellement relou, la pub, quoi, que voilà, quoi. C'est pour ça que j'espère que dans l'avenir il y aura des trucs qui vont se développer sur YouTube. C'est, pour moi c'est un aspect que YouTube il faudrait qu'ils repensent le truc, quoi. Par exemple, ils vont mettre en place le système de donation. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver en France.
Ça fait un petit moment que j'en ai entendu parler, ouais, effectivement, de ce système.
Il me semble que c'est déjà en place aux États-Unis, mais je suis pas sûr. Mais ça devrait arriver en France en 2015. Donc ça va peut-être être une alternative pour justement les petits youtubeurs qui galèrent un peu d'avoir. En fait, ils ont lancé ce système.
C'est un système d'abonnement, non, en fait, comme un peu sur Twitch.
En fait, non, la vidéo se termine, tu vas avoir un widget qui va s'afficher, et là tu vas pouvoir donner une somme d'argent pour ce youtubeur. Ça va s'afficher en fin de vidéo, en fait. Il me semble que ça va être comme ça.
D'accord. Ouais.
Donc ça va peut-être être une très bonne alternative qui permettra de ne plus passer par la pub, mais je ne suis pas sûr que ça marche tant que ça, parce que est-ce qu'il y aura beaucoup de monde qui sera prêt à donner de l'argent comme ça à la fin d'une vidéo? Je suis pas sûr. Ça reste à voir. En tout cas,
il y a toujours
YouTube,
des fans.
Après, t'as toujours des fans, oui. J'espère que ça marchera. Mais j'ai peur que, comme d'habitude, ça profite plus aux grosses chaînes qu'aux petites chaînes.
Bah malheureusement ça se verra plus sur les grosses chaînes, effectivement, parce qu'ils ont plus de gens, donc potentiellement de gens qui vont te donner après.
C'est ça.
Alors on va peut-être finir avec j'avais vu Rémi Toucourt qui disait: j'ai testé de parler de féminisme dans des communautés jeux vidéo et même des mecs super calmes en général deviennent ultra violents verbalement.
Ah ouais.
C'est vrai que c'est toujours un sujet assez sensible, le féminisme.
C'est un sujet super sensible. C'est moi je trouve que on a encore beaucoup à faire sur ce niveau-là. C'est que les filles, c'est très dur. C'est très dur pour une fille, on s'en rend pas compte, mais de s'intégrer dans une communauté geek, quoi.
Après, je dirais que ça dépend de la communauté geek, parce qu'il y en a justement qui gens justement qui soutiennent le féminisme. Du coup, elles auront moins de mal à s'intégrer avec ce groupe de personnes-là. Après, voilà, ils peuvent lutter ensemble contre ça.
Mais tu vois, une fille qui va se faire une partie en ligne comme ça. Alors
là, le random de base, effectivement.
Ouais, une fille random qui arrive avec d'autres random péons, tu vois, ben forcément, elle dit qu'elle est une fille. Il y a de grandes chances qu'elle se fasse spammer en MP, quoi.
Tu vois. Ou même directement en pleine partie, vocale, tout. Ouais, alors sur les parties de LOL, n'en parlons pas.
Ouais, moi je connais quelques filles geeks et elles me disent que en général elles vont enfin elles disent pas, quand elles jouent sur internet elles disent pas que ce sont des filles parce que elles ont vite fait de se faire harceler ou
effectivement ouais.
Tu vois.
Et c'est aussi pour ça que l'anglais est plutôt pratique parce qu'on voit pas le féminin apparaître très rapidement quand on parle à l'écrit par exemple.
Ouais.
Parlez s'il y a des filles dans le chat, parlez anglais le plus souvent possible, on ne verra pas que vous êtes une femme. Ça peut vous aider, ça peut vous sauver la vie.
mais c'est vrai que en général quand on commence à parler de sujet, ça part vite au quart de tour. Ouais. Parce que disons que c'est une communauté qui a été créée qui est vraiment entre les mains des hommes, et puis il y a ce côté au début les gamers, ils étaient, c'est un mec qui avait mis ça en commentaire, j'avais trouvé ça très intéressant, qui disait et c'est normal qu'aujourd'hui les mecs ils soient un peu réticents par rapport à l'idée qu'il y ait des filles qui arrivent dans le milieu, parce qu'au début tu sais, quand t'étais geek t'étais un loser quoi pour les filles. En gros, on va dire, dans le
t'étais rejeté par les filles, par les mecs qui étaient pas geeks. C'était voilà, le recul. C'est ça,
ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, maintenant, les mecs aujourd'hui se disent, ouais, je pense, après, c'est mon idée hein, du truc, mais ils disent, les filles avant, elles étaient pas tolérantes envers nous, les gamers, donc
elles sont jamais.
Pourquoi aujourd'hui on devrait être gentil avec elles, quoi.
Ah, justement, laissez-les venir, ça va vous guérir, ouais, de votre passif. Justement,
plus il y aura de filles, plus vous serez heureux, quoi.
Laissez-les venir, elles veulent plus des bofs, maintenant elles veulent des geeks, donc venez, laissez-les venir. Bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour là pendant une heure et demie,
ouais,
coupé par une petite coupure internet, ouais, mais chut.
Ouais, ça arrive, hein.
Ouais, je sais. Et désolé pour les drops qu'il y a pu y avoir pendant l'interview, mais bon. J'ai fait ce que j'ai pu en vous montrant des merveilleuses images des émissions des hommes et des jeux. Vous avez vu sans les sons jusqu'au l'épisode 7, du 11 au 7.
Ouais.
Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez envie de les voir avec le son, maintenant, ce que je vous invite à faire, vous avez en haut à droite la chaîne YouTube de Pianizza, donc Mister Pianizza. Tu es de ces gens-là qui mettent Mister.
Alors je voulais mettre Pianizza, mais c'était déjà pris, donc j'étais obligé de mettre Mister.
Ah, le fameux coup.
Ouais,
il y en a beaucoup. Mister Anton Daniel.
Voilà, par exemple. Ouais.
Donc le Twitter Pianizza, Facebook Pianizza. Il y a aussi, on avait dit, la vidéothèque d'Alexandrie sur Facebook.
Ouais, on peut te retrouver. D'Alexandrie, ouais.
Et puis voilà, t'as peut-être un mot pour la fin, quelque chose?
Bah, je voulais vous remercier. Merci à la JDG Winter Event 2014 de m'avoir gentiment invité pour cette interview, et puis merci à toi Claudal, c'était très bien, très cool. Bah,
merci, voilà. Et de rien, quand même.
Plein de bisous. Voilà.
Ça te permet d'avoir un peu plus de gens qui vont te suivre après cette émission.
Bah ouais, c'est pour ça, c'est cool, merci à vous.
Bah, de rien. Et puis donc nous, bah, on va vous laisser, parce que d'ici un peu moins d'une demi-heure, bah, vous allez retrouver Fred et Seb, peut-être accompagné de Bob Lennon pour jouer. Vous serez, je pense, heureux, enfin, pour ceux qui se demandaient il est où JDG depuis ce temps-là. Ce fameux running gag, il est où JDG. Nous ne sommes pas des voleurs de chaînes, non, c'est la vraie chaîne, on le rappelle. Donc, on vous fait des bisous, et moi, je vous retrouve demain pour l'interview de Ferryman. Ce sera fait par Dr. Wolf, mais moi, je serai là en technicien du son, comme d'habitude. Et vous me retrouvez surtout demain à 16h30 pour une race contre Bresca sur Medieval. N'oubliez pas, très bon jeu de PlayStation avec un magnifique glitch qui aura marqué le Summer Event par ma part, qui m'aura fait perdre une demi-heure de mon temps. Clairement, c'est resté dans les annales. Et mon magnifique caleçon Sonic aussi. Bref, je vous retrouve demain, et bon stream ce soir avec Fred et Seb. Des bisous.
Allez, ciao, merci.